Voici une question dont la réponse changera peut-être certaines attitudes. Quels sont les véritables amis de Jésus? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse des plus enrichissantes aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, vous voulez avoir Jésus pour ami? Vous croyez l'avoir déjà? Eh bien, c'est possible. Allons voir ensemble ce que l'apôtre Jean nous dit à ce sujet, alors que le livre de la révélation de Jésus-Christ répondra aux questions que voici. Qu'est-ce qu'on a à comprendre alors que Jean nous fait la description de Jésus tel qu'il l'a vu dans sa vision? Que signifient les 7 étoiles que Jésus tenait dans sa main droite dans cette vision? Que représente l'épée aiguë à 2 tranchants qui sortait de sa bouche? Qui sont les véritables amis de Jésus? Pourquoi est-il possible de l'approcher sans avoir peur? Quelles sont les 3 sections du livre de l'Apocalypse dans l'ordre chronologique? Que représentent les 7 étoiles et les 7 chandeliers décrits dans l'Apocalypse? Restez à l'écoute, on est sur le point d'apprendre de grandes choses dans la parole de Dieu, et ce, dans le livre de l'Apocalypse et par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, remercions le Seigneur pour sa parole qui transforme nos vies. Prions. Merci Seigneur, parce que avant que je te connaisse, tu as placé quelqu'un sur ma route afin que tu puisses transformer ma vie, afin que je sache ce que j'avais à faire pour devenir un enfant de Dieu. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui, tu continues à transformer nos vies par ta parole. Merci pour ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Aide-nous à être vraiment à l'écoute, de réaliser qu'on est devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce Seigneur merveilleux qui nous aime. Et nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons en retour pour ton grand amour. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que, même si Jésus s'est dévêtu d'une partie des attributs de sa divinité pour venir sur terre il y a 2000 ans, il est beaucoup plus que le prédicateur itinérant ou l'homme crucifié qu'on se représente habituellement. Il est le Christ glorifié. Sa puissance et son aspect sont redoutables. Et le livre de l'Apocalypse nous le présente tel qu'il est réellement, le véritable Jésus-Christ. Chers amis, débutons notre lecture, Apocalypse, chapitre 1, versets 14 et 15. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Les cheveux blancs démontrent l'existence éternelle du Seigneur Jésus, même si aujourd'hui ils sont souvent associés à la sénilité et à l'improductivité. Au temps de l'apôtre Jean, les cheveux blancs étaient un signe de sagesse. Jésus est l'ancien des jours, également décrit avant son incarnation dans le prophète Daniel, chapitre 7, verset 9. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, précise l'apôtre Jean. Il possède un regard pénétrant, et il est le témoin oculaire de la vie interne de l'Église. Il connaît tout de vous, comme il connaît tout de moi. » Il observe la caisse de chaque église locale et il sait combien les gens donnent. Dimanche dernier, il regardait les chrétiens alors qu'ils remettaient leur offrande dans le panier. Ses yeux ont rencontré ceux de l'apôtre Pierre après qu'il l'ait renié par 3 fois. Couvert de honte, l'apôtre Pierre est ensuite sorti et il a pleuré. Si vous pouviez seulement voir les yeux de votre Sauveur aujourd'hui, il nous regarde tous. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Il nous rappelle l'autel d'airain dans le tabernacle, décrit dans le 27e chapitre de l'Exode. Il représente le sacrifice de Jésus-Christ sur la terre, quand il est mort sur la croix. Il a subi à notre place le jugement de Dieu et le juste châtiment de nos péchés. Et maintenant, dans les cieux, il juge ceux qui lui appartiennent. Mais comme nous l'avons déjà vu, il vaut mieux lui appartenir et être corrigé maintenant que de mourir sans lui appartenir pour être ensuite jeté dans les flammes pour l'éternité. Mais un jour ou l'autre, Dieu jugera tous les hommes selon sa justice. Cela n'est pas toujours agréable à entendre. La nature humaine se rebelle contre toute forme de jugement s'exerçant sur elle. Elle ronronnera comme un minet si on la flatte, mais elle rugira comme un lion si on lui fait remarquer une faute. C'est pourquoi la position actuelle de Jésus-Christ et son travail contemporain d'inspection sont largement ignorés par l'Église. Et il ne se répand pas en flatterie. Son regard perçant pénètre au-delà des apparences afin de discerner les motivations profondes du cœur. Il ne ferme pas les yeux devant le péché et le mal. Il nous ordonne de nous repentir. Nous reviendrons sur ce point pendant les prochaines émissions. Ces remarques sont incisives devant les faiblesses de l'Église, comme on peut le voir au chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'Église se débat et se tortille dans tous les sens quand elle reçoit une évaluation semblable. Il en a toujours été ainsi à travers les siècles, jusqu'à aujourd'hui. Une telle attitude résulte de l'amertume naturelle qui se dégage du cœur des chrétiens tièdes. Ceux-ci sont représentés par l'Église de Laodicée, que nous verrons plus tard. Ils portent peu d'attention aux avertissements de Jésus-Christ. Comme quelqu'un l'a déjà dit, il existe un homme de gloire, mais l'Église l'a perdu de vue. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix est celle de l'autorité. Cette voix a appelé l'univers à l'existence. Elle ressuscitera ses élus et les tirera du tombeau, où elle les enlèvera du monde afin qu'ils soient toujours avec lui. Même si le Seigneur Jésus les reprend et les corrige, il ne renoncera jamais à aucun de ceux qui lui appartiennent. Toutes ces images s'ajoutent au tableau de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Il inspecte et il juge son Église. Considérons notre souverain sacrificateur. Le Saint-Esprit, qui habite en nous, nous aidera à le voir dans toute la magnificence de sa beauté. Le Dieu souverain. Lisons cette fois Apocalypse, chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il avait dans sa main droite sept étoiles. Cela signifie que Jésus exerce un contrôle complet sur tout l'univers. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. On m'a déjà demandé si cette phrase devait être comprise dans son sens littéral. Bien sûr que non. Ailleurs, dans les Écritures, nous pouvons voir que cette épée représente sa parole. Il est écrit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Dieu juge au moyen de sa parole, révélée dans la Bible. Il juge de cette manière encore aujourd'hui. Et quand il révèle sa volonté dans sa parole, nous devrions nous asseoir, l'écouter et en prendre note, car il est sérieux. Comme nous l'avons déjà dit, l'apôtre Jean affirme au début de son évangile que Jésus est la parole incarnée de Dieu. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On ne peut pas regarder pendant longtemps l'éclat du soleil. Pensons-nous être capables de regarder le Créateur de ce soleil, celui qui est le Christ glorifié? Les véritables amis de Jésus. Cette fois, lisons Apocalypse, chapitre 1, verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » L'apôtre Jean entretenait une bonne relation avec Jésus lorsque ce dernier marchait avec lui sur la terre. Il est appelé le disciple bien-aimé, et il faisait partie du cercle d'amis intimes de Jésus. Pourtant, lorsqu'il aperçoit le Christ glorifié sur l'île de Patmos, il ne s'approche pas de lui pour lui serrer la main ou lui donner l'accolade. Il n'a même pas pu dire un mot. Il est tombé comme raide mort à ses pieds. L'effet de cette vision paralysait l'apôtre Jean, rien de moins. Et puisque Jean, un ami proche de Jésus, a réagi de cette façon en voyant le Christ glorifié, nous pouvons être certains que, lorsque nous serons devant lui à notre tour, nous ne l'approcherons pas avec des familiarités. Nous tomberons probablement comme morts à ses pieds, nous aussi, car il est le Christ glorifié aujourd'hui et pour l'éternité. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ceux qui se sentent libres de prier notre Seigneur Jésus-Christ comme s'il s'agissait d'un vieux copain, car il a déjà clairement posé ses conditions si nous désirons être ses amis. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 14. « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Si vous pensez être un ami de Jésus, cela implique forcément que vous lui obéissez. Si quelqu'un pense pouvoir traiter Jésus-Christ d'égal à égal, sa conception de Dieu est très limitée. Oh, si nous pouvions seulement le voir dans toute sa gloire et sa beauté, nous ne penserions même pas adopter ce genre de comportement avec lui. L'apôtre Jean est tombé comme mort devant Jésus, mais ce dernier le réconforte en posant sa main sur lui et en lui disant, « Ne crains point. » Combien de fois trouvons-nous cette parole dans la bouche de Dieu en lisant la Bible? Car la magnificence est parfois effrayante. Par exemple, lorsque les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer de Galilée en pleine tempête, ils étaient morts de peur. Mais il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 14, le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Dieu désire notre amour et non notre crainte. Au prochain verset, il nous donne quatre raisons de l'approcher sans aucune peur. Lisons Apocalypse, chapitre 1, verset 18. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Premièrement, je suis le premier et le dernier. Il nous démontre ainsi sa divinité. Il est venu de l'éternité et il vit éternellement. Dans le psaume 90, verset 2, l'auteur déclare « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » L'expression « d'éternité en éternité » désigne une divinité qui n'a jamais connu de commencement et qui ne connaîtra jamais de fin. Il est Dieu. Il est le premier, car il n'y avait personne avant lui. Il est le dernier, car il n'y aura personne après lui pour lui succéder. Deuxièmement, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant. Celui qui vivait est ensuite mort, pour ensuite revenir à la vie. Ce passage nous indique sa mort rédemptrice et sa résurrection. La plupart d'entre nous souffrent d'un complexe de culpabilité. Nous sommes habités par la peur de voir quelqu'un pointer vers nous un doigt accusateur. Bien sûr, nous sommes tous coupables devant Dieu. Mais l'apôtre Paul nous entretient sur ce sujet dans son épître adressée aux Romains, chapitre 8, verset 34. « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. » Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourrait condamner les enfants de Dieu si Dieu les a acquittés? Ou, comme l'apôtre Paul le dit si bien, qui les condamnera? Christ est mort. Trouvez-vous des défauts en moi? Dites-vous que je suis un grand pécheur? Alors, sachez que Jésus-Christ est mort pour moi. Bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité pour me justifier et pour montrer que Dieu m'a pardonné et que j'irai au ciel un jour. Il est même assis à la droite de Dieu et il intercède pour moi, auprès de son Père, qui est maintenant mon Père par adoption. Nous en obtenons la confirmation à la prochaine raison. Lisons cette troisième raison. Je suis vivant au siècle des siècles. Cela indique l'état actuel de Jésus-Christ. Il est encore vivant, il juge et il intercède pour son peuple. Nous en avons bien besoin. Quatrièmement, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés sont un signe d'autorité et de puissance. Jésus règne sur la mort et le tombeau encore aujourd'hui, et il a prouvé sa victoire sur la mort en ressuscitant lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul exulte dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Car non seulement Jésus a-t-il définitivement vaincu la mort, mais il a promis à ses élus qu'il ne les laisserait pas éternellement dans le tombeau. Le séjour des morts peut désigner soit l'endroit où la dépouille est entreposée, soit l'endroit où l'esprit va après le trépas. Mais peu importe. Ce séjour de mort ne pourra pas nous retenir, car Jésus-Christ en a la clé. Nous pouvons donc nous réjouir, comme l'apôtre Paul l'a fait, que la mort n'a plus aucun pouvoir durable sur nous. Jésus nous a soulagés de cette terrible peur de la mort. Les sections temporelles de l'Apocalypse. Les versets qui suivent nous donnent l'ordre chronologique du livre de l'Apocalypse en trois sections. Le passé, le présent et le futur. Je vous propose ce découpage d'une manière un peu arbitraire pour le moment, mais j'espère vous convaincre de son exactitude à mesure que nous progressons dans notre étude. Apocalypse, chapitre 1, verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Premièrement, écris donc ce que tu as vu. Jusqu'ici, qu'est-ce que l'apôtre Jean a vu? Il a vu le Christ glorifié. Rappelons-nous qu'il s'agit d'un livre centré sur la personne de Jésus-Christ. Le Christ glorifié est le sujet principal de l'ensemble du livre. Quel que soit le découpage donné au livre, il en reste la figure centrale et incontournable. Ne nous laissons pas distraire par les quatre chevaliers de l'Apocalypse, les bêtes ou les coupes de colère. Ce ne sont que des figurants et des accessoires dans la trame grandiose qui se développe sous nos yeux. Restons plutôt bien concentrés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Il est le même aujourd'hui, hier et à jamais. Et la tâche de l'apôtre Jean consiste à décrire la vision qui lui est donnée. Deuxièmement, écris donc ce qui est. Sur quoi l'attention de l'auteur est-elle attirée au moment où il écrit ces lignes? Quelle tâche précise lui est confiée au moment où il reçoit cette vision? Revenons au verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Comme nous l'avons déjà vu, ces sept églises ont réellement existé au temps de l'apôtre Jean. En même temps, elles représentent l'Église de Jésus-Christ à travers les siècles. Dans les deux prochains chapitres, le souverain sacrificateur confiera à son apôtre les résultats de sa tournée d'inspection. Ce dernier devra ensuite envoyer cette évaluation aux églises visées. Cette phrase « ce qui est » indique donc l'ensemble des églises. Rappelons-nous que le chiffre 7 représente quelque chose de complet. Nous pouvons donc à la fois comprendre les sept églises dans un sens littéral, car ces sept églises ont réellement existé. Et en même temps, ces sept églises sont typiques de l'ensemble complet des églises chrétiennes à travers le temps. Troisièmement, et ce qui doit arriver ensuite. On se rappelle que le texte original grec utilise l'expression « metatota » à la fin de cette phrase. Une traduction plus littérale rendrait donc « et ce qui doit arriver après ces choses ». Ces choses désignent les choses de l'Église dont il était question auparavant. La troisième section portera donc sur le temps qui suivra le départ de l'Église. Tel est le programme de Jésus-Christ. L'Église sera enlevée dans les cieux et nous verrons ensuite les événements se produisant sur terre après que l'Église l'ait quittée. La dernière partie de ce programme est décrite dans les chapitres 4 à 22. L'interprétation des sept étoiles et des sept chandeliers. Verset 20. Le mystère des sept églises que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Comme nous l'avons déjà souligné, l'Apocalypse n'est pas un livre incompréhensible et mystérieux. Au contraire, on y trouve l'explication des mystères. L'auteur nous fait clairement savoir que des symboles sont utilisés, et il nous donne en même temps la signification de ces mêmes symboles. Si nous ne trouvons pas la signification de ces symboles, ni dans l'Apocalypse, ni dans les autres livres de la Bible, l'interprétation littérale doit être privilégiée. Le mystère des sept étoiles et des sept chandeliers d'or. Dans la Bible, un mystère est un secret sacré qui n'a pas encore été révélé. Ce mystère n'avait pas été révélé avant que sa signification soit donnée à l'apôtre Jean. Il est en relation directe avec le contenu de sa vision. L'apôtre Jean est le seul auteur biblique à avoir vu le Christ glorifié. Certains pourraient affirmer que l'apôtre Paul a également vu le Seigneur dans toute sa gloire sur le chemin de Damas. Pour voir si c'est exact, revenons au livre des Actes, chapitre 26, le verset 13, pour savoir ce que l'apôtre Paul a vu. « Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul a vu? Une lumière fulgurante qui l'a laissé temporairement aveugle. Nous ne pouvons même pas soutenir l'éclat du soleil et l'apôtre Paul a vu une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Au moment où il a vu cette lumière, l'apôtre Paul était encore un persécuteur acharné de la jeune Église de Jésus-Christ. Il n'aurait jamais pu voir Jésus dans toute sa gloire, mais il savait qu'il avait vu une fulgurante lumière. Ses yeux ne pouvaient soutenir son éclat et il est resté aveugle pendant quelques jours. L'apôtre Jean était donc le premier à voir le Christ glorifié. Les sept étoiles sont identifiées comme étant sept anges. Les étoiles représentent aussi l'autorité. Au verset 13 de Jude, les faux enseignants sont appelés « des astres errants ». Dans le texte original grec, le mot traduit par « astre » dans Jude et « étoile » dans l'Apocalypse est le même. Le mot « ange » peut également être traduit par « messager ». Il peut donc s'agir d'un être humain ou angélique. Il peut tout aussi bien désigner un messager des cieux qu'un enseignant d'une église sur la terre. J'aime penser qu'il désigne les pasteurs des sept églises locales dont il sera question dans les deux prochains chapitres. Mais, étant moi-même pasteur, je ne pourrais pas prétendre faire preuve d'objectivité sur cette question. Les pasteurs se font appeler de toutes sortes de noms, mais cela ne nous arrive pas tellement souvent de nous faire traiter d'anges. Si vous le voulez bien, je m'en tiendrai à cette interprétation. Les sept chandeliers sont les sept églises, précise ce texte. Le mot « chandelier » n'est pas tout à fait exact, car ce ne sont pas des chandelles qui sont soutenues par le chandelier, mais des lampes à l'huile. Elles représentent les sept églises d'Asie, comme nous le verrons. Et, par extension, elles représentent l'ensemble des églises chrétiennes à travers les siècles. Cette église qui est le corps de Jésus-Christ. Cher ami, fais-tu partie de ce corps de Christ? Place ta foi en Jésus-Christ, et tu pourras par le fait même devenir un membre de ce corps. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 1. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. J'aime tellement entendre parler de la relation de Jésus avec Jean. Je crois que c'est le genre de relation que tous les croyants désirent avoir avec notre doux Sauveur. Tu as dit aujourd'hui que Jean était appelé le disciple bien-aimé. Mes amis, ça me rappelle le jour de ma conversion. le jour où la personne qui m'a conduite à Christ m'a donné une Bible. En me la donnant, elle a dit « Lis-la en commençant par l'Évangile de Jean. Il est l'apôtre de l'amour. » Moi qui avais tant cherché l'amour toute ma vie, j'avais cherché l'amour parfait. Et voilà que je constatais qu'aucun être humain n'était capable d'aimer parfaitement. Mais Jésus, lui, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, a aimé ses disciples d'un amour parfait. Et 2000 ans plus tard, il aime encore les disciples du 21e siècle d'un amour parfait. Tout ça pour dire qu'une fois rendu chez moi avec ma Bible neuve, je me suis mise à dévorer ce beau livre de la Bible, l'Évangile de Jean. Et en plus, puisque je venais de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, puisque je venais d'obtenir le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, eh bien, l'Esprit de Dieu habitait en moi et m'aidait à comprendre les Saintes Écritures et je découvrais des perles dans ce beau livre. Naturellement, c'est dans ce livre de la Bible qui est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça Jean 3:16. Et au verset 35 et 36, il est écrit que le Père aime le Fils, qu'il a remis toutes choses entre ses mains, et que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Imaginez, je venais tout juste de placer ma confiance en Jésus seul pour obtenir le don gratuit de la vie éternelle, et en lisant l'Évangile de Jean, Dieu me confirmait que j'avais bel et bien la vie éternelle. Moi qui avais vécu dans le péché toute ma vie, et sans aucune bonne œuvre à présenter, Dieu venait me gracier, il venait de me donner mon billet pour le ciel. Quel amour! Et je pourrais vous en dire bien long au sujet de ma première lecture de l'Évangile de Jean, mais le temps me manquerait. Mais pour toi, mon ami, toi qui souffres peut-être pour les mêmes raisons que moi il y a 30 ans, eh bien Jésus est vivant. Oui, il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés, mais le troisième jour, il est ressuscité, glorieux, et présentement, à travers ma voix, il t'invite à te détourner de tout ce que tu reconnais comme étant péché dans ta vie et à te tourner vers lui. Ses bras sont grands ouverts devant toi et il dit, « Laisse-moi entrer dans ton cœur. Si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Je te la donne aujourd'hui. » Alors, mon ami, tourne tes regards vers Jésus, vers Dieu qui est l'amour même, celui qui veut effacer tes péchés pour ensuite te consoler, te fortifier, te garder jusqu'au jour où il viendra te chercher pour t'amener au paradis pour l'éternité. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. Reçois son amour pendant qu'il est encore temps. Tu ne sais pas s'il sera trop tard demain. Tu ne sais même pas si tu vas vivre demain. Alors reçois Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.